Frères et sœurs bien-aimés, le commandement nouveau que le Seigneur nous livre ce jour doit être médité. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. L'œuvre de création, pour commencer au commencement, est marquée par l'amour de Dieu, par cette bonté dont tout provient. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes nous aussi, chacun, personnellement, façonnés par cet amour de Dieu. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Dieu se donne dans l'œuvre de création. Dieu se donne en étant notre créateur. Il est également dans la nature du bien de se communiquer. Et tout le récit de création est ponctué de ces déclarations. Et Dieu vit que cela était bon. Cette bonté de Dieu, ce bien qui se communique, conjugué à l'amour qui se donne, fait ce beau mot de bonté. Le bon Dieu nous aime avec une bonté inimaginable. Chut. Dans ce Dieu qui se donne par amour, le règne du péché vient compromettre cette perfection de l'amour avec laquelle nous avons été créés. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu se révèle, il se révèle, nous l'avons entendu dans le psaume, il se révèle comme un Dieu lent à la colère, plein d'amour. Il révèle qu'il est tendresse, qu'il est pitié, et l'auteur du psaume, le roi David, l'affirme, la bonté du Seigneur est pour tous. Lorsque Dieu ainsi se révèle, eh bien, il va commencer par pédagogie à réapprendre à aimer. Il faut d'abord s'aimer soi-même, nous disent les saintes Écritures. Aimer le prochain, dit le bon Dieu, comme l'on s'aime soi-même. C'est le fondement même de l'amour. Je ne peux pas aimer les autres si, au commencement, je ne m'aime pas moi-même d'une juste mesure. On comprend que celui qui s'aime trop, Narcisse, diraient les auteurs anciens, qui finit tellement il se trouve beau en se contemplant dans l'eau qu'il n'enlève pas le nez et qu'il en meurt de soif. On comprend qu'il ne s'agit pas de s'aimer outre mesure, mais de s'aimer comme Dieu nous aime dans une juste mesure. Alors, sur ce fondement de l'amour, nous sommes capables d'aimer les autres. Nous mesurons aussi chacun combien l'amour familial, l'amour d'un père et d'une mère pour leurs enfants, pour leur équilibre, pour leur construction, est fondamental. Il y a tant de blessures d'amour, parfois, dans nos familles. Donc le Seigneur a commencé à rappeler dans sa loi qu'il fallait aimer les autres comme on s'aime. C'est déjà un premier pas. Mais voici que le Seigneur Jésus va aller plus loin. Il y a dans l'Évangile un moment charnière. Il y a cette personne qui vient demander au Seigneur quel est donc le grand commandement parmi tous les commandements de la loi. Et il y en a de nombreux. Eh bien, le Seigneur Jésus va rappeler que ce qui est premier, ce qui est fondamental pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre civilisation, c'est l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus affirme le premier commandement. Celui donc qui prime sur tous les autres, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Un amour qui est en fait une réponse, car le premier Dieu nous a aimés. Et nous, en réponse, c'est la réponse de la foi, nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, de toute notre âme. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il affirme ainsi la primauté de l'amour pour Dieu, va nous rappeler un commandement qui est second, non pas secondaire, qui voudrait dire que l'on pourrait éventuellement s'en passer. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu. Ce qui est second, comme le revers de la même médaille, c'est l'amour pour le prochain. Une fois que le Seigneur Jésus manifeste cela, il va pouvoir dire, à travers le mystère de sa passion, ce que nous venons d'entendre. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au don de soi. de telle sorte qu'il peut affirmer dans l'Évangile « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Dans le mystère de l'amour tel que Dieu nous le révèle, il précise que l'homme quittera son père et sa mère et avec sa femme, tous deux ne feront plus qu'une seule chair. L'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, sont seuls capables par l'amour partagé, l'amour vécu, l'amour faisant une seule chair, d'enfanter la vie, de donner naissance à leurs enfants. Quelle grande dignité est la nôtre que celle de pouvoir ainsi transmettre la vie. Et la vie divine, puisque à ce grand mystère de l'amour qui donne la vie, non seulement nous transmettons la vie du corps à nos enfants, mais le bon Dieu insuffle à chacun une âme, dès le premier instant de sa conception, une âme qui, elle, est éternelle. Car l'amour, si c'est l'amour véritable, s'il n'est pas une amourette passagère dans le temps, vise toujours l'éternité. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous donc » les uns les autres. Pour comprendre l'exigence de l'amour, cette loi nouvelle dont le Seigneur est la cause exemplaire, eh bien, il faut le suivre à travers l'Évangile, dans ses enseignements, dans ses prédications, jusqu'en ses paraboles, parce qu'il veut un petit peu nous secouer, ne pas que nous nous laissions endormir par le règne du péché en vivant comme si Dieu n'existait pas. Dieu est là. Au cœur de nos vies. Il a manifesté son amour sur le bois de la croix. Innocent pour toutes les fois où nous sommes coupables, voilà que le Seigneur, eh bien, prend sur lui tous nos péchés et nous conduit par le mystère de la croix, non seulement au pardon de nos fautes, nous faisant miséricorde, mais il nous ouvre alors les portes de la vie éternelle puisque la mort est la conséquence du péché. Dans ses enseignements, le Seigneur est confronté, nous le rencontrons souvent dans l'Évangile, à la loi reçue de Moïse. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait observer scrupuleusement, on n'imagine même pas tout ce que cela comporte, scrupuleusement, la loi pour être sauvé. Ceux qui se présentent au Seigneur Jésus comme des justes sont ceux qui observent scrupuleusement la loi. La loi de Dieu, la loi de Moïse, et le Seigneur Jésus les met en garde. Parce que ce n'est pas l'observance seule de la loi qui peut sauver. Et le Seigneur Jésus donne des exemples. Regardez la parabole du bon Samaritain. Il y a cet homme blessé sur le chemin qui a des pertes de sang. Et voilà qu'un prêtre vient à passer et scrupuleusement, au nom de l'observance de la loi, se met à le contourner pour ne pas entrer en contact avec lui et pouvoir ainsi, observance de la loi, continuer à offrir le culte légitime à Dieu. S'il entre en contact avec la personne blessée, avec le sang, il est impur et ne pourra plus exercer son ministère. Tel autre juif se met à passer et scrupuleusement le contourne. Et le Seigneur prend l'exemple du Samaritain, le cousin germain, que ne supporte pas la tradition juive pour dire « Mais regardez ce Samaritain descendu de son cheval. Il prend souci et soin de la personne blessée. Il paye pour tous ses soins. » Le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que si l'homme est fait pour écouter la loi, pour que la loi, telle des bornes sur notre chemin, nous conduise à la vie bonne, eh bien, nous ne sommes pas faits pour cette observance scrupuleuse de la loi. Tout d'abord, nous n'y arrivons pas. Et le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre qu'il serait faux de penser que parce que je suis complètement dans les clous, alors je suis sauvé. Parce que ce que regarde le bon Dieu, c'est le cœur. On disait du Seigneur Jésus, avec effroi dans ce contexte, mais il fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec les pécheurs. Il n'a pas eu peur de Marie-Madeleine, prostituée s'il vous plaît, la femme aux nombreux maris, eh bien, de se laisser par elle recevoir ce parfum sur ses pieds. C'était le scandale. Le Seigneur Jésus nous met en garde dans la parabole du fils prodigue. Nous nous souvenons des deux fils. Celui qui décide que son père pour lui est mort, demande la part d'héritage et va mener enfin une vie qu'il pense libre, loin de son père, de l'autorité parentale. Nous connaissons la suite. La famine a sévi, il a tout dépensé avec des filles dans une vie de désordre. Et voilà qu'il se met à revenir vers son père. Et il y a le fils aîné. Le fils aîné, lui, il a toujours été obéissant. Et puis alors, obéissant scrupuleusement dans la loi, qui ne veut même plus rentrer dans la maison de son père parce que son père a accueilli son fils. Mon fils que voilà était mort, il est rendu à la vie, il était perdu, voilà qu'il est retrouvé. Et le père va sortir pour essayer de convaincre le fils aîné qu'il faut entrer dans la joie de son maître. Nous aussi, dans le monde dans lequel nous vivons, nous pourrions penser dans ces catégories, moi je suis pratiquant, moi je prie chaque jour et je me suis marié, etc. N'oublions jamais que si cela est vrai, et bien pour la vie éternelle, le Seigneur, malgré tout, fait toujours bon accueil aux pécheurs. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre, comme je vous ai aimé. Je ne suis pas venu vous condamner. Le Seigneur Jésus aurait pu lapider Marie-Madeleine, non. Que celui qui n'a jamais péché, dit le Seigneur Jésus, jette la première pierre. Nous contemplons alors l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Dieu déteste le péché. Mais il fait une différence que notre monde n'est même plus capable de faire entre le péché et le pécheur. Dieu dénonce le péché, mais fait bon accueil au pécheur. Il lui offre un chemin de conversion. C'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine. Va, et maintenant ne pêche plus. Entre dans la joie de ton maître. Cette parabole du fils prodigue et du fils aîné, c'était l'image du Seigneur Jésus, de Israël et de nous tous qui venons des nations païennes. Dieu n'aurait pas dû accueillir les nations païennes parce qu'elles n'étaient pas pures, elles n'étaient pas purifiées par l'observance de l'ancienne loi. Or, le Seigneur Jésus fait bon accueil. Bon accueil aux Juifs, bon accueil aux Samaritains, bon accueil aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Alors nous avons aussi à aimer avec cette exigence de l'amour, en tenant fermement les principes de la loi de Dieu, mais en comprenant que l'observance scrupuleuse de tous ces principes ne nous est pas spontanément accessible, que l'œuvre de la grâce doit nous permettre, eh bien, petit à petit, de devenir meilleur. « Moi non plus, dit le Seigneur Jésus, je ne te condamne pas. Va et maintenant ne pêche plus, une nouvelle vie commence pour toi. » Donc rentrons, frères et sœurs, dans la joie de Dieu, dans la joie du pécheur qui est accueilli, du pécheur qui peut recevoir l'absolution de ses fautes, qui peut, comme nous le dit Notre-Dame de Lourdes, à ouvrir un chemin de pénitence pour le pardon de ses fautes et redevenir pleinement membre de l'Église et membre du corps du Christ. Alors nous entendons le Seigneur nous dire « Comme je vous ai aimé, mes petits-enfants, dit-il, aimez-vous les uns les autres. » Et le Seigneur enfin insiste sur ce chemin d'amour, sur le fait qu'il y a le pardon, qu'il nous faut pardonner, mais qu'il faut aussi changer notre regard, parce que les autres qui ont reçu le baptême, qui se pardonnent, qui ont été pardonnés de leurs fautes, nous-mêmes, il ne nous appartient pas de les condamner. Et le Seigneur, là, nous met en garde sur un point précis, de faire attention que si nous cultivons en nos cœurs la mentalité du fils aîné, nous serons jugés sur cette même mentalité. La mesure, nous dit-il, dont vous vous servez pour les autres, eh bien cette même mesure, au moment de votre jugement, elle servira pour vous. Cela ne veut pas dire que nous abolissons tous les principes de la vie morale, absolument pas, mais que il faut comprendre que les principes de la vie morale, l'ordre de l'amour et de la perfection de l'amour, eh bien, nécessitent une conversion de chaque instant. Autrement dit, nous ne sommes jamais arrivés à la perfection de la vie chrétienne, parce que nous ne pouvons pas y arriver seulement par la force de nos bras et de notre volonté. Nous devons ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu pour pouvoir aimer comme le Christ nous aime. Et vous savez que je vous fais chanter très souvent, hein, « Jésus, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Eh bien, puisse le Seigneur nous aider à parvenir à cette perfection de l'amour, à vivre dans le bon accueil que nous accordons aux pécheurs, parce que nous sommes là pour les accompagner, nous sommes tous pécheurs. Et nous demandons au Seigneur, eh bien, de changer nos cœurs et de nous aider à aimer, à accueillir, à pardonner comme lui a manifesté cet amour à notre endroit, ainsi soit-il.